Lizzie présente L'Antarctique, le rêve d'une vie, de Mike Orr. Lue par Lémi Constantin. Chapitre 1. Le Cap, novembre 2016. Maintenant, chaque heure qui file est un supplice. Jusqu'à quand l'Antarctique daignera-t-il m'attendre? Sur mon bateau inerte, entouré de mon équipage au bras ballant, j'ai l'impression d'être un sprinteur coincé dans ses starting blocks. Je déteste ces journées qui s'étirent comme du chewing-gum. J'ai une vieille philosophie là-dessus. En moyenne, une vie dure 30 000 jours. On n'a pas le droit d'en gâcher un seul, de subir le temps qui passe. On ne naît pas pour être le spectateur de sa propre existence. Et encore, 30 000 jours, c'est quand on a de la chance. La plupart de mes proches ne l'ont pas eu. J'ai perdu mon père, Michael, quand j'avais 18 ans, ma sœur aînée, Linda, et ma femme, Cathy, en pleine force de l'âge. Autour de moi, il n'y a que ma mère, Blanche, qui file doucement vers ses 76 printemps. Je la vois presque tous les jours depuis que Pangea, mon bateau, est amarré dans la marina du port du Cap. C'est bien le seul côté positif de mon séjour prolongé et du report perpétuel de notre date de départ. Elle vient de Stellenbosch, à 45 minutes de voiture. Elle apporte des gâteaux pour l'équipage, elle étouffe d'un sourire mes accès d'impatience. Malgré la maladie qui la mine, elle ne se départit jamais de sa douceur et de l'amour qu'elle porte à son prochain. Ma mère est très pieuse. Elle me dit qu'elle priera pour moi tous les jours que durera mon expédition. Comme ça, les anges se mettront autour de ta tente et ils te sauvegarderont. Et elle le fera, jusqu'au bout. Puis sa besogne accomplie, son fils sain et sauf, les anges l'emporteront quelques semaines plus tard. On est le combien ? Le 17 novembre. Cela fait une bonne semaine que je devrais avoir levé l'ancre. À cette date-là, la plupart des expéditions en Antarctique sont déjà à pied d'œuvre. Les équipes d'explorateurs se font déposer par avion sur le Grand Glaçon et en voiture, Simone. Au cœur de l'été austral, on considère en effet que novembre, décembre et janvier sont les 3 mois où il est possible de survivre en autarcie sur le continent blanc. Dès la mi-janvier, les expéditions cessent, les bases ferment et on éteint les lampions jusqu'à la saison suivante. Ensuite, on entre dans le brutal, dans l'inconnu. Enfin, ce n'est pas tout à fait l'inconnu. On sait très bien ce qui se passe. À partir du mois de février, les températures déjà frisquettes sont en chute libre. Moins 40 degrés, moins 50 degrés, moins 60 degrés, jusqu'à ce record de moins 89,2 degrés enregistré en juillet 1983 sur la base russe de Vostok. Avec le souffle réfrigéré des vents katabatiques, masse d'air froid, dévalant les glaciers à plus de 100 km à l'heure, le risque pour le promeneur égaré d'être transformé en hibernatus s'accroît gravement. Donc, je suis à la bourre. Chaque jour qui passe sur mon bateau immobile dans le décor pimpant de Waterfront est un jour en moins pour sortir vivant de mon défi fou. D'autant que, à l'inverse de mes homologues, je n'ai pas d'avion pour me déposer sur les côtes de l'Antarctique. J'y vais par mes propres moyens. En traversant les mers hostiles et un puzzle de glace à la voile et au moteur. J'ignore combien de temps ça va m'occuper et si Pangea parviendra à slalomer entre les icebergs jusqu'à bon port. De toute façon, ce n'est pas encore d'actualité. L'actualité, c'est qu'il manque toujours un papier, une autorisation, un improbable sauf-conduit que me réclame l'administration sud-africaine pour pouvoir hisser les voiles. J'ai beau me défouler en escaladant plusieurs fois par semaine Table Mountain, ce promontoire majestueux qui jette son ombre sur toute la baie du Cap, l'adrénaline forme une boule compacte dans un coin de mon cerveau. J'ai vraiment les nerfs en pelote. Pour me consoler de mes déboires, je m'efforce de repenser à Roald Amundsen, mon héros, le premier homme à avoir rallié le pôle Sud le 14 décembre 1911. Lui, ce ne sont pas les problèmes de calendrier, ni les contrariétés administratives qui risquaient de le freiner. Le récit des aventures de l'explorateur norvégien a bercé mes rêves de gamin, stimulé mon imaginaire plus qu'aucun autre. Aussi loin que je me souvienne, l'histoire de la découverte de l'Antarctique m'a toujours fasciné, presque aimanté. Ce n'est sans doute pas un hasard. Je suis né au Cap, et vous pouvez vérifier sur la carte du monde, il n'y a rien en dessous que le bleu de l'océan et le blanc du majestueux continent de glace. Quand on a 8 ans, ça ouvre la voie de tous les possibles. Quand on en a 50 aussi. J'ai toujours su qu'un jour, je tenterais de réussir quelque chose d'unique dans les parages du pôle Sud. Il me fallait juste patienter jusqu'à ce que toutes les planètes soient alignées au-dessus de ma tête. Après 30 ans de baroud, la guerre dans les forces spéciales sud-africaines et moult pérégrinations dans les coins les plus hostiles de la planète, la conjonction astrale est enfin là. Cette expédition sera la somme de toutes les précédentes. J'ai les connaissances d'un vieux briscard et le mental d'un jeune loup. Je me sens prêt à battre le record de la traversée de l'Antarctique. Mais pas n'importe lequel, pas n'importe comment. Un record à l'ancienne, à la manière de mes idoles du siècle dernier, au terme d'une traversée épique, à la tête d'un équipage dévoué corps et âme. Plus qu'un exploit, je veux réaliser mon rêve d'enfant. Au-delà de tout, j'adore la façon dont Amundsen avait emprunté le bateau d'un de ses collègues, Fridtjof Nansen, pour s'en aller croiser, soi-disant, depuis le port d'Oslo jusqu'au pôle Nord, alors qu'il n'avait en réalité que le pôle Sud en tête. Ces hommes d'équipage n'avaient appris leur véritable destination qu'à la veille du départ, mais aucun n'était redescendu à terre. Mi-explorateur, mi-pirate, Amundsen se fichait bien d'être traduit devant un tribunal par le propriétaire du Fram à son retour de l'Antarctique 2 ans plus tard. Rien ne pouvait venir à bout de son obstination. Ni la malnutrition, ni le scorbut, ni la folie qui frappèrent nombre de ses équipiers. La belle époque. Voilà ce qui remonte à ma mémoire durant ces longues journées d'attente sur Pangea, imposante silhouette grise amarrée à son ponton comme un cétacé amorphe. Il suffit que je pense à la bravoure, à la dinguerie de ces premiers explorateurs, et ma motivation s'en trouve aussitôt décuplée. Qu'aurait fait Amundsen, né comme moi un 16 juillet, en pareille situation? Je connais la réponse, mais je me donne encore 24 heures pour trancher. Franchement, ce ne sont pas un ou deux importuns un peu trop zélés qui vont pouvoir se mettre indéfiniment en travers de ma route. En temps normal, je ne me torturerais pas avec ça. Ce sont toutes les incertitudes qui entourent mon périple, tous les risques que je m'apprête à courir, qui devraient me donner des maux de crâne. Certes, je ne suis pas le premier aventurier à tenter de traverser l'Antarctique sans assistance. En 2006, le Norvégien Rune Hjelnes l'a déjà fait, mais sur un trajet plus court que celui que j'ambitionne. 4800 km en 90 jours, en mettant le cap après le pôle sud sur la baie de Terranova et la station italienne de Zucchelli. D'autres encore l'ont imité sur des distances plus modestes, comme mon ami Bourget Ausland, ou encore le Canadien Frédéric Dion, qui, dans un bel élan de confraternité, m'a fourni ses points de passage GPS pour baliser au mieux le début de mon expédition. Tout ce joli monde est parti, comme j'envisage de le faire, des alentours de la base russe de Novolazarevskaya. Mais personne n'a encore osé rallier la station française Dumont-d'Urville en tranchant la calotte d'une saignée presque rectiligne, quitte à affronter le terrible dôme Charlie, dit dôme C, une montagne de glace dont le sommet sculpté par le blizzard culmine à plus de 3200 mètres. La deuxième partie de mon périple, totalement inédite, s'annonce la plus périlleuse. Pour parvenir à mes fins, il me faudra battre le record de distance parcourue en Antarctique, 5100 km en faisant grâce des zigzags. Et fatalement, le record de vitesse, puisque l'imminence de l'hiver ne me laissera pas le choix. Sur le papier, les choses sont claires. Dans la réalité, je ne sais quasiment rien de ce qui m'attend. Je sais juste que tout le monde me prédit l'enfer. Je n'ai peut-être que 10% des réponses à tous les problèmes qui se poseront à moi, mais à mes yeux, c'est amplement suffisant pour me lancer dans l'aventure. Les 90% restants me viendront tout seuls dans l'adversité.